Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Salut, c'est Thomas Rozek. Vous le savez sans doute, dans un peu moins de 2 mois, celles et ceux qui possèdent une carte d'électeur en bon état de marche pourront aller d'un pas joyeux vers leur bureau de vote afin de participer aux élections européennes. Enfin joyeux, je sais pas si le terme est totalement exact, puisqu'on va pas se mentir, le scrutin est loin de déchaîner les passions. C'est bien dommage, et à plus d'un titre. D'une part parce que vu l'impact des politiques européennes sur nos vies, choisir les élus qui nous y représentent a sa petite importance. D'autre part, cette élection en particulier, c'est la confirmation du changement d'époque que traverse le monde politique, où les figures connues, les ténors de la profession doivent céder la place à des petits nouveaux, si possible ayant un profil original calqué sur le modèle d'un certain président de la République. C'est notamment l'option qu'a choisie la droite. Laurent Wauquiez, le patron des Républicains, a donné les clés de sa liste européenne à François-Xavier Bellamy. Pourtant, là aussi, pour reprendre une expression désormais culte, le nouveau monde ressemble par bien des aspects furieusement à l'ancien, ne serait-ce que par les prises de position très conservatrices du même Bellamy sur le mariage homosexuel ou l'avortement. Alors on a eu envie de poser notre question désormais rituelle lorsqu'on en vient à aborder la politique. Qui êtes-vous, monsieur Bellamy ? Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Si on peut clairement le considérer comme une nouvelle figure dans le monde de la politique, il serait faux de dire que François-Xavier Bellamy est totalement novice en la matière. Au contraire, il a très jeune vu de l'intérieur à quoi pouvait bien ressembler l'action publique, puisqu'on le retrouve dès 2006 alors qu'il prépare son agrégation de philosophie à l'École normale supérieure, dans le cabinet du ministre de la Culture de l'époque, Renaud Donnedieu de Vabre. Un poste qui va le conduire 2 ans plus tard, 1 an après l'élection de Nicolas Sarkozy, vers un autre ministère, celui de la Justice, dirigé par Rachida Dati à l'époque, et dans l'équipe, il croise la route du magistrat Guillaume Didier. Il est porte-parole du ministère. Il a désormais quitté la politique pour s'occuper de stratégies de communication, mais il se souvient très bien de François-Xavier Bellamy.
Alors, j'ai vu François-Xavier Bellamy la première fois arriver en 2008 au cabinet du garde des Sceaux, Rachida Dati. J'étais moi-même à son cabinet, j'étais porte-parole du ministère de la Justice. Et on voit arriver un matin un très 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 jeune homme avec des yeux bleus perçants qui venait occuper une fonction qui est stratégique même si elle est très discrète, qui est la fonction dite de plume. En fait, c'est la personne chargée de rédiger les discours du ministre, et on voit arriver un garçon très souriant, très affable, très très simple, qui très vite a pris ses marques dans un petit bureau et qui a pendant 1 an rédigé la quasi-totalité des discours de Rachida Dati.
Comment est-ce qu'il est arrivé là? Est-ce que vous le savez?
Alors, je crois qu'il est arrivé là un petit peu par hasard, parce que le directeur de cabinet, un des directeurs de cabinet de Rachida Dati, l'avait rencontré, avait entendu parler de lui alors qu'il était au cabinet de Donnedieu de Vabre, qui était ministre de la Culture. Donc, c'est vraiment par le hasard. Ouais. Et il se trouvait qu'au cabinet de Rachida Dati, il y avait quand même pas mal de mouvements, pas mal de changements réguliers de conseillers. Et que la fonction de rédacteur de discours est une fonction très particulière, un peu ingrate, dans l'ombre. Il est arrivé parce que il était professeur de philosophie, et donc il avait une bonne plume.
Qu'est-ce qu'il incarne politiquement à cette époque-là? En tout cas, comment est-ce que vous l'identifiez politiquement dans ce qu'était la droite à cette époque-là?
Alors, je vais être très honnête, il avait 23 ans. Ouais. On était au tout début du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Il y avait à l'époque, il faut s'en souvenir, quand même un vrai enthousiasme, une vraie dynamique, qu'on soit de droite, qu'on soit de gauche, etc. Il faut reconnaître que le début du quinquennat de Nicolas Sarkozy était un quinquennat en mouvement, on réformait beaucoup. Donc, lui, il était clairement de droite, mais il n'y avait pas que des gens de droite dans le cabinet ministériel, contrairement à ce qu'on croit. Mais on a finalement peu parlé politique-politicienne. On parlait plutôt de la politique au sens noble du terme, quoi, c'est-à-dire comment faire avancer les choses, comment faire bouger les choses, comment ramener plus de moyens à la justice, comment mieux prendre en charge les mineurs délinquants, comment voilà. Mais très loin de ce que certains veulent faire, c'est-à-dire l'enfermer dans une étiquette de droite dure, rigide, etc. Vraiment à l'opposé de ça.
Oui. On a un peu de mal, quand on connaît assez peu les coulisses de la politique, on va dire, à voir quel est l'impact politique réel de ceux qui sont les auteurs des discours, en tout cas qui sont les plumes. Est-ce qu'il intervenait sur des dossiers, ou est-ce qu'il se contentait de mettre en forme les idées qui étaient développées à l'intérieur du ministère ?
être le conseiller en charge de la rédaction des discours d'un ministre, c'est stratégique parce que évidemment qu'il doit apporter sa connaissance, sa matière, sa culture pour approfondir, pour mettre du fond dans les discours du ministre. Mais il doit surtout, et c'est là le plus difficile, il doit surtout s'imprégner de la personnalité du ministre. Donc, lorsque maintenant l'opinion publique commence à découvrir François-Xavier Bellamy, l'opinion publique connaît depuis 10 ou 15 ans maintenant Rachida Dati. Vous voyez le contraste entre ces deux personnalités. Et François-Xavier a eu cette l'humilité de se mettre vraiment, de s'imprégner un peu de la personnalité de Rachida Dati pour, à travers des discours, que ces discours, disons, reflètent la personnalité, les idées de Rachida Dati, tout en les enrichissant de références politiques, culturelles, philosophiques, personnelles.
Est-ce qu'il y a eu des moments, où, pendant ce passage où vous avez travaillé ensemble au sein du ministère, où vous vous êtes dit que François-Xavier Bellamy était voué à un destin en dehors de l'ombre, on va dire, à un destin public potentiellement national, comme c'est ce qui est en train de se passer? Ou est-ce qu'il était encore trop jeune et que c'était encore en formation, on va dire?
Alors pendant un an où je l'ai côtoyé, je n'ai jamais pensé qu'il pourrait avoir un destin public politique. Je le voyais charismatique, plein de... d'enthousiasme, de simplicité. Je n'étais pas du tout étonné qu'il s'oriente vers le professorat, que ce soit devienne un très grand conférencier. Mais jamais j'aurais dit qu'il allait faire de la politique de premier plan comme il le fait aujourd'hui. J'avoue que c'est une grande surprise. Et je trouve ça finalement assez rassurant, parce que quoi qu'on pense de ses idées ou de ce qu'on pense savoir de ses idées, je pense que la politique a intérêt, à droite comme à gauche, d'avoir des profils comme François-Xavier Bellamy, parce qu'on sont des gens qui vivent dans le réel, qui réfléchissent. On peut être en désaccord avec eux, mais ils sont toujours très respectueux de l'opinion contraire. Et puis surtout, quand on apprend à le connaître, on se rend compte que ces opinions sont toujours fondées sur des choses qui sont raisonnables, qui sont des convictions personnelles, qui sont assez respectables, en fait.
Vous dites ce qu'on croit savoir de ces idées. Vous pensez qu'on a une image un peu déformée? Enfin, nécessairement, quand on passe dans le filtre médiatique, c'est nécessairement déformé. Je suis bien passé pour le savoir, et vous aussi. Mais vous pensez qu'on a une vision un peu biaisée, comme ça, de ce qui se cache derrière ces idées, politiquement parlant?
Totalement biaisé, mais c'est un peu le jeu de la politique, après tout. Il veut faire de la politique de premier plan. Je pense qu'il assume parfaitement les risques. Mais c'est vrai que, quand on le connaît, c'est un peu désolant de voir qu'il est caricaturé, qu'on le fait passer pour un... Certains le font passer pour un réactionnaire, homophobe, intolérant, etc. C'est vraiment l'opposé de ça. C'est un garçon qui est extrêmement sérieux, extrêmement sympathique, extrêmement tolérant. Après, il a des convictions, et je pense que la politique a gagné à avoir des gens de conviction. Mais vraiment, tous ceux qui l'ont côtoyé pendant cette année de cabinet ministériel, c'est assez intense, la vie de cabinet, c'est le collègue parfait. C'est le collègue que vous êtes content de retrouver le matin, c'est le collègue qui est toujours de bonne humeur, qui est toujours réglo. Cabinet ministériel, c'est un milieu qui est parfois un peu dur. Là, vous n'aviez aucun chausse-trappe à attendre d'un François-Xavier Bellamy. C'est vraiment le collègue parfait.
Vous pensez qu'il a conservé des choses de cette année passée chez Rachida Dati? Qu'il y a des éléments, peut-être des dossiers qui l'ont marqué et qui l'ont emmené jusqu'à là où il est aujourd'hui?
Être conseiller du garde des Sceaux, ça marque forcément. Être conseiller en début de quinquennat de Nicolas Sarkozy avec un ministre qui a la personnalité de Rachida Dati, bien sûr que ça marque. Donc évidemment, il faut se rappeler, il y a eu des crises lourdes, il y a eu des incidents dans l'administration pénitentiaire, dans les prisons, il y a eu des chantiers quand même comme la réforme de la carte judiciaire, comme la rétention de sûreté, il y a eu vraiment une forte tension avec les magistrats, avec les avocats. Donc bien sûr que je pense qu'il a été en très fin observateur. Je pense qu'il a beaucoup appris pendant cette année de cabinet ministériel.
Pour ce qui est par contre d'éventuels liens tissés avec Rachida Dati, on peut imaginer qu'ils ne furent pas des plus solides. Cette dernière, qui est députée européenne sortante, devait figurer sur la liste des Républicains cette année. Elle a finalement décidé de se consacrer au futur municipal à Paris, non sans signaler au passage que le choix de Bellamy pour mener la bataille n'était pas forcément des plus judicieux. Mais revenons au fil de notre histoire. François-Xavier Bellamy est donc à la tête de cette liste européenne, aux côtés de deux figures moins polémiques, l'élue parisienne Agnès Evrin, proche de Valérie Pécresse, et le député européen sortant Arnaud Danjean, pour sa part ancien proche d'Alain Juppé. Alors comment passe-t-on
de collaborateur de l'ombre de ministre à figure de proue de la droite en pleine recomposition. Bien pour le savoir, je suis allé poser la question à ma consoeur Marion Mourgue du Figaro, qui suit de près les Républicains.
Il a deux casquettes, j'ai envie de dire, François-Xavier Bellamy. C'est à la fois un philosophe, un agrégé de philosophie, et puis un politique. Et donc, les deux engagements sont mêlés. Alors aujourd'hui, on parle plus de la tête de liste, mais il a toujours ses cours qui donnent de philosophie en prépa. Et puis, il a toujours aussi sa casquette de maire adjoint de Versailles. Et donc, c'est comme ça qu'il entre en politique il y a 10 ans.
Comment est-ce qu'il prend de l'ampleur au sein de la droite républicaine, au sein des Républicains? Comment est-ce qu'il s'impose comme une figure qui va finir par être incontournable?
Il y a évidemment le mouvement de la Manif pour tous, puisqu'il est très présent, il lance les veilleurs à Versailles.
Petite parenthèse pour rappeler que les veilleurs, c'était un mouvement qui, en 2013, se trouvait en périphérie de la Manif pour tous. Ils organisaient des sit-ins pour s'opposer au mariage entre personnes du même sexe et plus généralement à ce que eux considéraient comme un abandon du modèle familial traditionnel. Le mouvement se revendiquait comme non confessionnel, mais il était tout de même à très forte dominante catholique. Voilà pour la parenthèse, retour à notre discussion sur François-Xavier Bellamy.
Et puis, il y a aussi son engagement philosophique qui fait que ça aussi, ça le fait connaître, y compris par les politiques, c'est-à-dire qu'il anime des conférences, il est au Théâtre Antoine tous les lundis, il écrit des livres, Les Déshérités, il y a 4 ans, demeure aujourd'hui, et donc ça l'installe dans le débat public, on le remarque et on se dit, tiens, une tête bien faite qui parle de tous les sujets.
Est-ce qu'il y a eu des étapes intermédiaires entre cette émergence avec la Manif pour tous, qui était il y a 6 ans maintenant, et aujourd'hui son arrivée à la tête de liste? Est-ce qu'il y a eu, des grandes étapes de franchie, des moments un peu symboliques dans cette évolution politique?
Alors la première grande étape, c'est son livre « Les déshérités » il y a 4 ans. Parce que là, les hommes politiques, et notamment au sein des Républicains, se l'arrachent. Trouvent le livre trouve le livre qui, justement, met l'accent sur cette idée de transmission des valeurs, de transmission de l'histoire, de transmission du patrimoine, très intéressante. Et donc, à partir de là, Laurent Wauquiez, Valérie Pécresse le connaissent, le sollicitent. Et lui, du fait de ce livre, eh bien, c'est pas une campagne, mais finalement, il va sur le terrain pour présenter son livre. Et donc, il y a de plus en plus la rencontre entre la philosophie et la politique via cette même personne.
Il incarne quoi au sein de la droite en termes de, on va dire, de courant idéologique? Où est-ce qu'on peut le classer? Parce que maintenant, la droite est assez éclatée, on va dire, en différentes familles de pensée. Enfin, elle l'a toujours été, mais elle l'est d'autant plus aujourd'hui. De quel côté on peut le ranger, lui?
C'est vrai que la droite est plurielle et lui, François-Xavier Bellamy, représente une sensibilité. Pour beaucoup, c'est la sensibilité conservatrice. Alors lui refuse ce mot et en trouvant cette étiquette bien trop réductrice, il se classe non pas au centre-droit des Républicains, mais plutôt à la droite de LR, ce qui est pour certains une critique, pour d'autres une qualité. Donc c'est vraiment justement dans le trio que porte les Républicains aujourd'hui dans les européennes, c'est lui incarne une des sensibilités.
Comment est-ce qu'il a été accepté par l'appareil exécutif des Républicains? Je crois qu'il y a eu quelques frottements au moment où il a commencé à se murmurer qu'il allait être désigné par Laurent Wauquiez pour porter la liste aux européennes.
Il y a un mois entre le nom de François-Xavier Bellamy qui apparaît dans le débat et la construction de la tête de liste. Pendant ce mois où lui reste relativement discret parce qu'il n'a pas d'assurance d'avoir la tête de liste, il y a pas mal de critiques de certains élus les Républicains, des critiques qui sont publiques, qui sont répétées sur ce côté, il est trop conservateur, il ne défend pas la même ligne que la nôtre, on ne sait pas qui il est et on ne sait pas s'il tiendra dans le débat. Et au moment de la construction de la tête de liste, finalement, on a le droit à une surprise qui est l'annonce d'un trio. Et c'est cette surprise qui fait aussi qu'il est accepté parce qu'avec lui, il y a deux autres sensibilités, dont Arnaud Danjean, qui est député sortant et qui a été longtemps étiqueté jupéiste.
Une de ses prises de position les plus controversées, les plus visibles, on va dire, c'est sur l'IVG. Comment est-ce que cette prise... Déjà, est-ce qu'on peut résumer un peu quel est son état d'esprit vis-à-vis de l'avortement et comment ça est perçu et apprécié diversement au sein de la droite?
Pour François-Xavier Bellamy, l'idée n'est pas de revenir sur la loi Veil, mais il n'est pas pour l'avortement et estime qu'il y a d'autres manières d'aider les femmes que de l'avortement, en expliquant que pour chaque femme qui se ferait avorter, c'est un drame personnel et que donc la société peut peut-être les aider à ne pas avoir à subir ce drame. Cette position n'est pas partagée par l'ensemble des élus LR, ce qui donc lui est souvent reproché. Mais tant François-Xavier Bellamy que ses colistiers comme Arnaud Danjean répètent à juste titre que l'élection européenne, ce n'est pas le moment de cette discussion, sachant que ce n'est pas l'Europe qui reviendra sur la loi Veil et qu'il n'y a pas de volonté de revenir sur cette loi Veil.
Et les sujets nationaux s'invitent toujours dans les élections, même au-delà, on va dire, des scrutins nationaux, justement, même dans les scrutins européens, c'est souvent des questions nationales qui peuvent faire pencher plus ou moins la balance. Est-ce que, justement, cette position iconoclaste, et pour ne pas dire polémique, peut pas mettre en danger, quelque part, la candidature des LR, qui est déjà assez fragilisée, de manière générale? La droite est assez fragilisée en ce moment.
Alors ça, j'ai envie de vous dire, on verra le résultat le 26 mai. On verra si ça a porté préjudice ou pas. François-Xavier Bellamy et ses colistiers ne cessent de répéter « c'est une conviction personnelle ». Encore une fois, elle n'est pas partagée par tous, mais c'est une conviction qui existe au sein de la droite et des Républicains. Ensuite, il est vrai que François-Xavier Bellamy a cette question de l'IVG et de sa position à chaque interview. Ça fait donc plusieurs semaines qu'on ne cesse de commencer une interview en lui disant « mais au fait, est-ce normal que vous pensiez ça et quelle est votre position ?» On verra aussi dans les prochaines semaines si le débat tourne autour uniquement de cette question et de la polémique, ou s'il arrive à s'en extraire et à parler véritablement du projet européen de LR. Donc ça sera aussi très révélateur. Est-ce qu'il arrive à finalement faire consensus?
C'est quoi ses rapports avec la presse? Parce que bien souvent, ces dernières années, dans la construction des personnages publics, le rapport avec les médias est assez essentiel, notamment dans tout ce qui est du ressort du storytelling, de la manière de se raconter médiatiquement. Quel rapport, lui, il entretient avec cette construction de son image?
Je ne suis pas sûre que ce soit lui qui entretienne un rapport, que les médias, qui, justement, ont un regard très particulier sur lui. C'est à la fois la nouveauté, c'est à la fois un profil particulier du fait de philosophie et politique. Et un membre des Républicains me disait, assez surpris, c'est incroyable ce qu'il suscite, c'est plus fort encore que Nicolas Sarkozy pendant la présidentielle. Et il faut bien mesurer qu'aujourd'hui, c'est François-Xavier Bellamy dans le trio qui attire la lumière. Les caméras viennent pour lui. On verra encore si c'est une construction médiatique ou s'il existe aussi par lui-même. Pour l'instant, il est venu par lui-même, en tout cas.
Est-ce que c'est une manière aussi, l'émergence de ce type de figure pour la droite traditionnelle, de mettre à distance l'ancien monde, pour reprendre un terme très à la mode chez les macronistes, de montrer que la droite, elle aussi, est capable de cette mutation qui fait entrer des nouvelles figures, pas forcément des gens issus du sérail de la politique, qui font entrer des nouvelles figures dans le jeu global?
Il y a un message très fort qui a été lancé par les Français en 2017, c'est le dégagisme, et ça a touché tous les partis. C'était la volonté aussi qu'il y ait des nouvelles têtes. Donc oui, en ça, les Républicains ont aussi appris avec l'idée qu'il y ait de la nouveauté, du renouveau, des figures de la société civile et un panache en fait entre nouveauté et expérience. Donc oui, ils représentent finalement la fin de cet ancien monde si on considère que l'ancien monde c'était uniquement ça. Après, lui portant les valeurs de transmission, d'histoire, voilà, c'est un mélange aussi entre les deux.
Oui, c'est un, on va dire, un nouveau monde qui parle beaucoup de très anciennes valeurs, quelque part.
Bah, pour François-Xavier Bellamy, si l'ancien monde, c'est que le mouvement pour aller vers un but qui n'est pas explicité, vers un projet de société qui n'est pas précisé, ça n'a aucun intérêt. Pour lui, l'idée d'un homme politique arriverait toujours en disant « voilà ce que je vais faire », mais en reniant ce qui a été fait, n'est pas ce qu'il porte. Pour François-Xavier Bellamy, c'est aussi l'idée de dire « mais qu'est-ce qui a marché dans le passé ? Quelles sont les valeurs sur lesquelles on s'appuie et que l'on veut conserver ? Comment on fait aussi du passé une force pour le présent ?»
Est-ce que c'est un moyen aussi pour Laurent Wauquiez de se maintenir à la tête de LR? Parce qu'on sait que on va dire sa gouvernance est assez critiquée. Justement, est-ce qu'il s'appuie sur ce type de figure pour maintenir son autorité sur le parti?
Il est vrai que depuis des semaines, voire des mois, Laurent Wauquiez est la cible de nombreuses critiques des élus LR qui lui reprochent son style, ses propos. Et les sondages sont très mauvais. Donc, pour Laurent Wauquiez, les européennes, c'est un cap à passer. Et François-Xavier Bellamy peut être une aide pour lui parce que, justement, il y a eu l'effet de la surprise. Ça rassure l'électorat LR, le noyau dur. et avec la constitution du trio, il peut espérer élargir un peu, ou en tout cas avoir les 20% de la droite qui s'était portée sur François Fillon en 2017. Donc l'objectif, c'est d'avoir évidemment le meilleur score possible. Ça, c'est l'objectif du trio, mais pour Laurent Wauquiez aussi, parce que ça évitera un procès en interne le soir du 26 mai.
Les européennes sont d'autant plus cruciales pour la droite et Laurent Wauquiez que l'une et l'autre ont beaucoup à y perdre, puisqu'avec le Rassemblement National, ex-Front National de Marine Le Pen, les Républicains sont ceux qui totalisent le plus de députés sortants. Un bouillon le 26 mai pourrait donc lui coûter très cher. Merci à Guillaume Didier et Marion Maure pour leurs réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Si vous nous écoutez sur Apple Podcast, n'hésitez pas à nous laisser quelques étoiles. 5 idéalement, ça nous fera le plus grand plaisir. Abonnez-vous par ailleurs, quel que soit votre appli de podcast préféré. Et à demain pour un nouvel épisode.
Binge.